France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Emmanuel Morsdinkan, Martine Moni, Antoine Giraud et Olivier Dehay. Voici la cinquième et dernière émission de notre série consacrée aux sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach, dont nous célébrons le tricentenaire du manuscrit de 1720. Comme chaque jour, nous écouterons la version originale pour violon seul dans une version enregistrée au XXIe siècle. Et après chaque pièce, nous en écouterons une adaptation, une transcription. Parmi les transcripteurs, nous avons déjà évoqué Jean-Sébastien Bach lui-même, mais aussi Félix Mendelssohn, Robert Schumann, Johannes Brahms, Camille Saint-Saëns ou Edison Denisov. Nous entendrons aujourd'hui la chaconne de la deuxième partita dans la version pour piano de Ferruccio Busoni, dans l'orchestration de Joachim Raff. Mais commençons avec Sergueï Rachmaninov, ici interprète de sa propre transcription du prélude de la troisième partita. Fin février 1942, Sergueï Rachmaninov avait 68 ans, il lui restait un an à vivre, et il enregistrait ici le prélude de la troisième partita en mi majeur BWV 1006 de Jean-Sébastien Bach, qu'il avait lui-même transcrite en rajoutant quelques coquetteries d'ornementation, quelques chromatismes dans l'accompagnement à la main gauche. C'est une des trois partitions de Jean-Sébastien Bach que Sergueï Rachmaninov a puisé dans ses sonates et partitas et qu'il a transcrit pour piano à des fins de virtuosité, mais surtout pour rendre hommage à Jean-Sébastien Bach comme tout l'ont fait tous ces auteurs que nous avons cités depuis le début de la semaine. Alors nous allons retrouver ce thème sous l'archet du violoniste Teddy Papavrami. Mais pas pour écouter la version originale de ce prélude de la troisième partita, nous l'avons écouté hier avec Sébastien Boron, mais pour l'écouter comme une citation faite par Eugène Isaïe dans sa sonate pour violon opus 27 numéro 2. Eugène Isaïe a composé six grandes sonates pour violon seul qu'il a dédiées à des grands violonistes comme Joseph Zighetti, comme Georges Enesco, Fritz Kreisler ou encore comme Jacques Thibault à qui est dédiée cette deuxième sonate en la mineur qui se déroule en quatre mouvements. Obsession, Malinconia, Danse des ombres et Les Furies. Et c'est dans Obsession que Eugène Isaïe cite le fameux thème de Jean-Sébastien Bach en le mêlant au thème du Dies Irae, la prière des morts. Voici donc cette Obsession d'Eugène Isaïe interprétée par Teddy Papavrami sur France Musique. Obsession, le premier mouvement de la deuxième sonate opus 27 d'Eugène Isaïe, interprété par Teddy Papavrami, hommage à Jean-Sébastien Bach à travers ce prélude de la troisième partita. Alors, ces partitions de Jean-Sébastien Bach, nous les avons entendues au début de la semaine dans différentes transcriptions pour des claviers, du clavecin, du luth-clavecin, du piano, de l'orgue, pour des vents, saxophone, flûte, clarinette, pour des percussions, marimba, pour des voix humaines, pour l'orchestre avec Jean-Sébastien Bach lui-même dans le début de la cantate BWV 29 avec Edison Denisov. On l'a entendu également aux cordes pincées, aux luths, à la guitare, à la mandoline. Alors pourquoi pas entendre Jean-Sébastien Bach au banjo? C'est ce que propose Bella Fleck dans ce même prélude. Thank you. Il s'appelle Béla Fleck et c'est lui qui a réalisé cet arrangement avec Edgar Meyer du prélude de la troisième partita de Jean-Sébastien Bach. Rappelons que sous la main de Bach, la troisième partita pour violon seul BWV 1006 était devenue la quatrième suite pour luth BWV 1006A. On s'imagine la bénédiction Jean-Sébastien Bach pour ses transcriptions. Béla Fleck est un ami de Joshua Bell, violoniste qui joue sur l'album dont est tiré ce prélude. Joshua Bell qui lui aussi a enregistré Jean-Sébastien Bach de nombreuses fois, et notamment la Chaconne dans une version orchestrée par John Corigliano. On peut également mentionner Nemanja Radulovic qui avait enregistré dans son album Bach une Chaconne également dans une transcription réalisée par Alexander Sedlar pour violon et orchestre. Alors cette partita de la ce prélude de la troisième partita a fait l'objet d'une méditation, d'une obsession de Jeanne Isaïe. Elle a fait également l'objet d'une improvisation de la pianiste Gabriela Montero, enregistrée en 2007. Voilà un clin d'œil pianistique et jazzistique à cette troisième partita de Jean-Sébastien Bach, à ce prélude improvisation de Gabriela Montero. Alors vous avez été nombreux à nous écrire pour nous faire part tout d'abord de votre amour de Jean-Sébastien Bach et puis de votre fidélité aux arabesques, ce dont évidemment nous vous remercions. Quand certains se posent la question de l'hommage ou trahison, création ou bidouillage entre ces différentes versions pour banjo et autres instruments, mais voici encore un court extrait, 2 minutes d'un enregistrement qui risque de faire réagir. Il s'agit de la musique de Jean-Sébastien Bach interprétée sur un synthétiseur, et plus exactement sur un Moog, cette création des années 70, ce synthétiseur qui a été immortalisé notamment par Wendy Carlos dans Orange Mécanique. C'est Greg Léon qui joue ici de synthétiseur aux côtés du violon de Jennifer Pike, avec le Sinfonia de Cracovie dirigé par Greg Léon lui-même. Thank you. éclat de rire pour certains, d'autres s'étranglent certainement en écoutant ce prélude de la troisième partita. En tout cas, je trouve ça assez amusant de vous faire écouter les dérives de ces transcriptions et autres arrangements. C'est donc Greg Léon qui jouait ici avec le Sinfonietta de Cracovie.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors, venons-en à cette chaconne de Jean-Sébastien Bach dont nous avons écouté tous les jours une version différente. Isabelle Faust, lundi, en version pour violon seul. C'était la version pour main gauche de Johannes Brahms qui était à l'honneur mardi. Mercredi, nous avons écouté la version d'Edison Denisov. Hier, c'était une version d'une musicologue allemande qui proposait de mettre en parallèle et même en simultané la chaconne de Bach et les chorales qui auraient inspiré cette partition. Voici maintenant une des orchestrations de la chaconne de Bach. Il y en a plusieurs, notamment celle de Léopold Stokowski qui a fait l'objet de plusieurs enregistrements. Stokowski qui était un spécialiste de ces orchestrations avec des orchestres un peu pachydermiques. C'est une orchestration qui me semble plus intéressante que celle de Stokowski que je vous propose d'écouter maintenant. Elle date du 19e siècle et on la doit à Joachim Raff, R-A-2-F. Voilà un compositeur que connaissent bien les amoureux de Franz Liszt puisque c'était le secrétaire particulier de Liszt entre 1850 et 1856. On dit même que c'est lui qui avait inspiré Liszt pour la création du poème orchestral, le poème symphonique. Eh bien, c'est ce Joachim Raff, compositeur de grand talent, qui proposait autour de 1870 cette orchestration de la chaconne de Jean-Sébastien Bach, enregistrée par l'Orchestre Philharmonique de la BBC, dirigé par Leonard Slatkin. C'est en 1873 que Joachim Raff avait ainsi orchestré la chaconne de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach. Elle était jouée ici par l'orchestre philharmonique de la BBC, dirigé par Leonard Slatkin. Alors revenons sur France Musique à notre troisième et dernière partita, après avoir entendu le prélude dans certaines de ses variations et dans la version originale hier. Eh bien voici la première des danses de cette véritable danse de cette partita. C'est une lour. La lour, à l'origine, c'est une cornemuse normande qui a donné son nom à une danse française à six suites. Et c'est une lour que nous allons entendre interprétée par Victoria Moulova. Voilà une fascinante violoniste qui a abordé de plusieurs façons cette musique de Jean-Sébastien Bach à travers sa carrière. En 1987, Victoria Moulova avait enregistré la première partita pour Philips, avec des cordes en métal, avec un archet moderne, un diapason contemporain. Et puis, sa lecture de Bach a été complètement bouleversée au fil des années. Voilà ce qu'elle raconte. Pendant très longtemps, tout en jouant très régulièrement ces morceaux, je ne parvenais pas à trouver le moyen d'exprimer sur l'instrument ce que je ressentais dans mon cœur. Quand j'étais au conservatoire de Moscou, mes professeurs m'ont enseigné des règles sévères concernant l'exécution de la musique de Bach. Ces règles correspondaient au goût de l'époque, selon lequel il fallait avant tout produire une belle sonorité, utiliser une articulation large, uniforme, créer des phrases très longues et vibrer en permanence et avec régularité sur chaque note. Il s'agissait, me disait-on, d'imiter le son de l'orgue. Je me rends compte que ces règles peuvent faire sourire aujourd'hui, mais elles représentent bien l'esthétique dans laquelle j'étais plongé. Au cours de ces années, mes sonates et partitas devinrent rigides, monotones et encore plus difficiles à jouer parce que cet enseignement m'avait privé des bases essentielles pour comprendre les partitions baroques. Je jouais presque sans articulation, sans relation entre les temps forts et les temps faibles qui sont naturellement liés au coup d'archet. Et surtout, je ne comprenais pas les relations harmoniques alors qu'il est indispensable d'en avoir conscience pour évoluer librement à travers le discours musical. Je tentais de compenser ces gros problèmes par une énorme quantité de travail, mais tout me paraissait incroyablement difficile et physiquement impossible à soutenir. Fin de citation. Et puis Victoria Moulova a rencontré des musiciens dits baroqueux comme Marco Postingel qui lui ont ouvert d'autres horizons. Et peu à peu, elle s'est mise à jouer sur instruments d'époque, cordes en boyaux et diapason baroque, comme dans cet enregistrement réalisé 20 ans après la première partita. Elle reprend toutes ses sonates et partitas en 2007 sur un violon Guadagnini de 1750, l'année de la mort de Bach. Diapason à 415 et la lour est ainsi interprétée.
Thank you.
Victoria Mulova dans la lourde de la troisième partita de Jean-Sébastien Bach. De grands musiciens se sont dit que certes cette musique était sublime, mais peut-être trop aride, trop sèche, trop exigeante pour des auditeurs contraints de restituer mentalement des éléments manquants, soi-disant manquants de l'harmonie. Alors pourquoi pas rajouter un accompagnement piano? C'est ce qu'avait fait Robert Schumann, on l'avait entendu cette semaine. C'est ce qu'a fait Mendelssohn en accompagnant au piano la Chaconne. Et ce qu'a fait également le violoniste Fritz Kreisler avec cette même partition. Intéressant de constater que c'est un violoniste, et pas des moindres, Fritz Kreisler, qui a rajouté cette partie très fleurie de piano pour la lourde de la troisième partita, Daniel Rhön au violon et Paul Rivinius au piano dans cet arrangement, en guillemets, si on peut croire que ça a été arrangé. En tout cas, revenons à la version originale, c'est la suite de la troisième partita, nous écoutons une nouvelle danse, c'est une gavotte en rondo, ainsi interprétée au violon baroque par Christine Busch.
Thank you.
Christine Bush rajoute quelques ornements à la partition de Jean-Sébastien Bach sur ce violon baroque et regarde plutôt vers le XVIIe siècle en jouant cette gavotte en rondo extraite de la troisième partita BWV 106, une gavotte en rondo qui a fait l'objet de nombreuses transcriptions, celle notamment de Sergei Rachmaninov. Cette partition a été jouée sur des instruments postérieurs à Jean-Sébastien Bach, saxophone, marimba et autres synthétiseurs Moog, et puis également des instruments antérieurs, je pense notamment à la basse de viol. Certes, la basse de viol existait encore à l'époque de Bach, mais elle était plutôt en déclin, comme en témoigne ce traité d'Hubert Leblanc de 1740, Défense de la basse de viol contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle. Eh bien, Marianne Müller a proposé une très intéressante transcription de cette partita, de cette troisième partita. Voici cette gavotte en rondo, en tonalité modifiée, nous sommes là en ré majeur. La gavotte en rondo, jouée pour un instrument auquel ce n'était pas destiné. Pourtant, c'est une bien belle version que nous écoutions là, celle de Marianne Müller à la basse de viol, extrait de la troisième partita de Jean-Sébastien Bach. Alors, je disais, vous êtes nombreux à nous écrire et je vous en remercie. N'hésitez pas à nous écrire d'ailleurs pour nous dire quelle est la version que vous aimez, celle que vous n'aimez pas, ou si même l'idée de transcription vous déplaît. Exprimez-vous sur notre site francemusique.fr, nous vous répondrons à tous les coups. Et justement, à l'instant, un auditeur que je salue, qui se prénomme Michel, nous écrit, et pour bien finir cette semaine de beauté, un petit Swingle Singers, point d'interrogation, amitié. Eh bien, cher Michel, voici. <t'-> 1968, les Swingle Singers enregistraient cet arrangement de Ward Swingle de la Gavotte en rondeau de cette troisième partita de Jean-Sébastien Bach, avec notamment la voix de Christiane Legrand, sœur du célèbre compositeur, et puis la voix d'Anne Germain qui a doublé Catherine Deneuve dans certains films de Jacques Demy. Il y avait également à la contrebasse Guy Pedersen et à la batterie un certain Bernard Lubat.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Suite de la troisième partita, avec cette fois-ci non pas une danse, mais deux danses pour le prix d'une. Ce sont deux menuets que propose Jean-Sébastien Bach dans ce BWV 1006. Deux menuets ici interprétés par Vadim Glouzman.
Thank you.
C'est sur un Stradivarius de 1690, l'ex Leopold Hauer, que Vadim Gluzman jouait ainsi ses deux menuets extraits de la troisième partita de Jean-Sébastien Bach, enregistrement de 2011, qui a été réalisé également avec un archer, Dominique Pécat, archer français. Et bien justement, ce sont des danses françaises qui sont mises à l'honneur dans cette troisième partita de Jean-Sébastien Bach, une lourde, une gavotte, des danses plutôt aristocratiques comme ses menuets, ou danses populaires comme la fameuse bourrée. Et bien, je vous propose d'entendre une adaptation sur un instrument qui est représentatif de la paysannerie française de l'ancien régime. Il s'agit de la vielle à roue. C'est un pari relevé par Toby Miller. Il me semble que ça correspond assez bien à l'ambiance de ces danses. On peut s'imaginer devant une toile du 17e, des frères Lenain ou de Georges Latour avec son fameux vielleur. Voici donc la vielle à roue dans cette musique de Jean-Sébastien Bach, arrangement de Toby Miller.
Thank you.
Une bourrée jouée sur une vielle à roue, c'est assez logique. C'est Toby Miller qui proposait ainsi ses adaptations des danses de la troisième partita de Jean-Sébastien Bach, Menuet, bourrée et gigue. Et bien justement, il est temps d'arriver à la fin de la lecture de ce précieux manuscrit de Jean-Sébastien Bach avec les deux dernières danses qui concluent la troisième partita dans une version pour violon seul. C'est Jennifer Coe. La bourrée et la gigue qui conclut la troisième partita de Jean-Sébastien Bach et qui conclut donc ses sonates et partitas. Elles étaient enregistrées ici en 2012 par Jennifer Coe. Nous pourrions revenir pendant des semaines sur ces sonates et partitas en version violon seul, tant il y a deux versions différentes. Évidemment, on pourrait évoquer toutes les grandes versions du passé de Heinrich Schering et Anton Milstein, mais il faudrait beaucoup plus de temps pour cela et je vous propose de revenir à un nouvel arrangement. C'est Sergei Rachmaninov qui avait ouvert cette émission avec le prélude de cette troisième partita. Rachmaninov a transcrit pour le piano trois extraits de cette partita, le prélude, la gavotte en rondo et la gigue, cette gigue qu'interprète ici Daniil Trifonov. Thank you. Sergueï Rachmaninov réinvente la gigue finale de la troisième partita BWV 1006 de Jean-Sébastien Bach. Et c'est Daniil Trifonov qu'on écoutait donc dans cette partition. Une gigue dont voici une dernière version sous les doigts d'un autre pianiste, c'est le pianiste de jazz Jacques Loussier. Nous avions l'occasion hier d'entendre le prélude de cette troisième partita. Dans les années 60, Jacques Loussier s'amusait entre le piano et l'orgue à jouer la version de Jean-Sébastien Bach pour la cantate BWV 29. Et d'alterner des parties jazzistiques. Et bien, 20 ans plus tard, Jacques Loussier revient à cette troisième partita de Bach, mais pour jouer cette fois-ci la dernière partie, la gigue en compagnie du contrebassiste Vincent Charbonnier et du batteur André Arpineau. En 1986, le trio Playback, Jacques Loussier au piano, Vincent Charbonnier à la basse et André Arpineau à la batterie dans la gigue finale des sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach. Et nous arrivons à notre dernière chaconne de la semaine, après avoir entendu plusieurs versions de cette monumentale partition. Voici celle de Ferruccio Busoni pour piano à deux mains, je précise, puisque mardi nous entendions une version de Johannes Brahms très fidèle à l'original de Bach pour la main gauche. Busoni va beaucoup plus loin et s'écarte du texte de Jean-Sébastien Bach. Et c'est un enregistrement que je vous propose d'entendre qui était prévu il y a un mois. Nous n'avons pas pu diffuser la version d'Arturo Benedetti Michelangeli le 7 août 1965 au Festival de Salzbourg. Cette partition, cette chaconne de Jean-Sébastien Bach prend une ampleur orchestrale et romantique, certainement éloignée de l'esprit de Bach, mais en tout cas sous les doigts d'Arturo Benedetti Michelangeli, c'est un moment d'éternité. Thank you. Arturo Benedetti Michelangeli en concert à Salzbourg le 7 août 1965, interprétait la chaconne de la deuxième partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach dans cette transcription de Ferruccio Busoni.
À réécouter sur francemusique.fr.